Bonjour, aujourd'hui dans cette émission, nous recevons François Billot de Lochner. Bonjour monsieur,
Bonjour.
bienvenue, vous êtes de passage à Lourdes, vous aimez Lourdes, vous nous le direz, vous êtes pèlerin, vous viendrez sans doute dans les mois à venir avec toute votre famille, une famille nombreuse, parce que je crois que vous
Exactement.
avez 6 enfants.
Six enfants, et nous viendrons en masse.
Bon, mais c'est d'un sujet un peu difficile dont nous allons parler avec vous. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, un roman qui s'intitule Les parfums du château.
Oui.
Parfum du château paru chez l'éditeur Terra Mare, qu'on peut se procurer. Il est paru il y a environ 1 an et demi.
Voilà, disponible en librairie, absolument.
Et vous nous plongez dans cette très dure réalité de la pornographie. Ses dégâts, son expansion, les dégâts en particulier auprès de la jeunesse actuelle. Bref, ce sujet, je disais en commençant, est compliqué parce que on a tous des tabous. Peut-être qu'un certain nombre de ceux qui nous écoutent sont frappés, sont touchés par la question,
Oui.
même dans leur proche entourage. Vous-même, pourquoi en êtes-vous venu à traiter de cette question? Quelle a été votre prise de conscience par rapport à la pornographie et ses dégâts?
Oui, alors d'abord, vous soulignez un point fondamental, c'est qu'effectivement, c'est un sujet horriblement complexe, car il touche au plus intime de la personne. Et donc, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent sachent que, voilà, nous parlons en liberté, mais il ne faut pas être choqué. Voilà, on est sur un sujet tellement compliqué qu'effectivement, c'est très compliqué d'en parler. Alors, sur mon cheminement, si vous voulez, en 2 mots, j'ai vu à la fin des années 90, au loin, une vague déferlante qui approchait. Je l'ai analysé, cette vague déferlante, c'était cette vague pornographique. Il y avait vraiment toutes les pièces du puzzle qui se mettaient en place, si vous voulez, que les gens ne comprenaient pas très bien, parce que quand j'en parlais à l'époque, les gens me disaient non, on voit pas, de quoi parlez-vous, une fois de plus, vous voyez tout en noir. Enfin, vraiment, j'étais vraiment considéré un peu comme quelqu'un qui était un petit peu délirant. Et en fait, je voyais que les cassettes pornographiques se diffusaient à une vitesse absolument ahurissante. Que la CIS mettait en place des films pornographiques, ce qui n'avait jamais eu lieu à la télévision jusque-là, etc., etc. Et la vague s'est approchée, et maintenant on est dedans. C'est un tsunami qui engloutit absolument tout sur son passage, et on n'a plus que nos petites mains pour essayer de lutter.
Quel est le mobile d'action de ceux qui font la promotion de la pornographie? Est-ce que c'est l'argent qui les pousse?
Alors là, vous posez vraiment une excellente question et je vous en remercie parce que justement, on oublie complètement que la pornographie, c'est un projet en fait très ancien. La diffusion de la pornographie, je ne vais pas remonter jusqu'à Charles le Chauve, hein, mais depuis le XVIIIe siècle, les philosophes, notamment au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, puis au XIXe siècle, ce que l'on a appelé les scientistes, les matérialistes, puis au XXe siècle, ce que l'on a appelé les sociologues, les psychologues, puis les libertaires, tout ce petit monde, en réalité, promeut depuis plusieurs siècles la pornographie comme arme de destruction massive de la société fondée sur des racines chrétiennes. Alors là, c'est pas moi qui l'invente. On n'a évidemment pas du tout le temps de développer ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais c'est très important d'avoir ça, j'allais dire, dans sa petite tête.
Donc vous dites que c'est un projet philosophique, d'abord.
Absolument. Absolument.
Destructeur, mais
C'est un
philosophique.
projet philosophique de destruction de la société chrétienne. Alors, je vais donner simplement un seul exemple très concret. C'est Lénine en 1917. Lénine a dit, il suffit de regarder ses écrits, avec une de ses adjointes qui s'appelait Madame Koulenkaï, qui était donc au comité central du Parti communiste, il faut détruire la société russe traditionnelle immédiatement par la diffusion de la pornographie et par le libertinage, la libération sexuelle. Et dans les livres d'histoire, c'est complètement occulté, mais en 1917-1918, la Russie est devenue un immense lupanar. Les jeunes avait toute possibilité de tout dévoiement sexuel. Ça a pris de telles proportions que les remontées chez Lénine ont été catastrophiques et Lénine a été obligé de faire des décrets menaçant de mort dans certains cas. Donc pour essayer de remettre de l'ordre parce que ses conseillers lui disaient mais cette libération sexuelle est en train non seulement de tuer la société chrétienne, si je puis dire orthodoxe, mais la société tout court. Donc on voit bien que c'est un projet et on a eu là un cas réel. Alors les libertaires, si vous voulez, des 50 dernières années, eux, n'ont pas été aussi puissants dans leur action, mais en réalité aujourd'hui, on en est à 1917. C'est-à-dire que l'Occident est devenu, pardonnez-moi d'être extrêmement grossier, mais une sorte de lupanar. C'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à ça. Et aujourd'hui, l'agression sexuelle est permanente dans la rue, au cinéma, dans les livres, à la radio et évidemment avec Internet. Mais ce n'est pas du tout qu'Internet et ce n'est pas du tout que de l'argent. C'est un projet de changement de la condition humaine.
Voyez, spontanément, j'ai mis l'argent moi, dans ma question parce que je pensais qu'il y avait derrière quand même ce mobile-là aussi, puisque c'est lucratif.
Alors voilà, aussi, mais pas que ça. Alors que beaucoup de gens pensent que ce n'est que ça, oui. Et qu'à la limite, si on régule un petit peu le problème financier, ça... Mais non, pas du tout. Non, non, quoi qu'il arrive, et même si ça ne rapportait plus rien, de toutes les façons, la pornographie serait utilisée, notamment par le monde libertaire.
Mais François Billot de Lochner, on a dû vous le dire, vous êtes un père la morale. Pourquoi vous nous dites cela, après tout? Après tout, laissons les gens libres.
Oui, alors ça, c'est le grand débat sur la liberté et sur la morale. Et ça, c'est aussi une question vraiment importante. Si la pornographie, effectivement, n'avait aucune incidence, je vous dirais, vous avez parfaitement raison. Finalement, bon, ben voilà, les gens, ils vont au cinéma, ils regardent un truc pornographique, ils lisent un livre pornographique, ils lisent un livre d'histoire catholique. Bon, tout va bien. Le seul problème, c'est que, jusqu'à nouvel ordre, quand on lit un livre sur Sainte Bernadette, l'organisme n'est pas atteint. Ça ne peut qu'élever l'esprit. Quand on consulte des matériaux pornographiques au sens large, hein, il n'y a pas du tout qu'Internet, mais évidemment surtout Internet aujourd'hui, ou les films pornographiques, en réalité, il y a une atteinte physique et une atteinte psychologique de chaque personne. L'atteinte physique, elle est très simple, et maintenant elle est prouvée par les neurosciences. Je travaille beaucoup avec un professeur d'université, docteur en neurosciences, qui a écrit des choses extraordinaires sur le sujet. Le cerveau est atteint par la pornographie. Nous avons une substance primaire dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine, et la pornographie esquinte la dopamine, et c'est pour ça d'ailleurs que la pornographie à haute dose détruit la sexualité, car la dopamine, qui est l'excitant obligatoire, n'existe plus, ou en tous les cas est tellement amoindrie que ça pose un véritable problème.
Au fond, vous nous dites que des addicts à la pornographie peuvent devenir impuissants.
Ah ben absolument. Alors ça, c'est certain, c'est prouvé, c'est même le cas le plus fréquent d'ailleurs chez eux. Alors à côté de ça, il y a le désastre psychologique évidemment, parce que quand à longueur d'année, à longueur de soirée, vous voyez effectivement des personnes qui devraient être des personnes magnifiques, avec une âme, un esprit, un cœur, un corps, transformées en objets de consommation, transformé en un unique entrejambe, mais c'est une monstruosité parce que psychologiquement, évidemment, l'impact est considérable et détruit complètement chez l'individu qui s'abreuve de matériaux pornographiques toute idée de ce qu'est vraiment la personne. Donc sur le plan psychologique, c'est une véritable catastrophe qui est une catastrophe du coup sociale parce que du coup, la personne qui est dans la pornographie n'a plus de contacts normaux avec les vraies personnes. Et donc, en général d'ailleurs, les personnes qui sombrent dans la pornographie s'enferment en général dans leur chambre. C'est très très difficile de les faire sortir tout azimut. Donc on voit bien que c'est un désastre. Et sur un plan, alors ça c'est pour l'individu, mais pour la société, la pornographie est une pure catastrophe. L'explosion des divorces vient notamment de l'incidence pornographique. Le nombre de ménages qui cassent parce que ou monsieur tombe dans la pornographie et madame s'en va, ou madame tombe dans la pornographie et monsieur s'en va. Mais c'est légion, mais on a des témoignages là-dessus, c'est absolument catastrophique. Le nombre de familles détruites dans leur ensemble avec des enfants qui partent complètement à la dérive parce qu'ils s'abreuvent de matériaux pornographiques, c'est légion. Donc on voit bien que sur le plan social, c'est un drame épouvantable au point... Et ça, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. L'Angleterre vient de mettre le dossier au niveau du Parlement pour qualifier la consultation, c'est même pas l'addiction, hein, de la pornographie, le qualifier de maladie. Ce qui pourrait être traité médicalement et donc être remboursé par la Sécurité sociale. Ça va loin quand même. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Angleterre. Qui est un pays, en plus de ça, plutôt libéral-libertaire. Donc, voyez-vous, il y a quand même une prise de conscience. Et puis, dans les élections de 2017, j'ai harcelé les candidats aux élections pour qu'ils introduisent dans leur programme, ça fait partie de mon job, hein, qu'ils introduisent dans leur programme quelque chose sur la pornographie. Et bien, je note quand même qu'à droite, le PCD, c'est-à-dire que je ne me trompe pas, le PCD a mis carrément une mesure pour lutter fortement contre la pornographie. François Fillon, dans son programme, a mis deux lignes. Mais c'était le programme des Républicains. C'est la première fois que les Républicains, dans un programme politique, parlaient de la lutte contre la pornographie. Marine Le Pen n'a rien mis dans son programme, mais a fait une déclaration extrêmement offensive à la télévision sur le sujet. En revanche, côté gauche, refus catégorique de mettre dans les programmes. Mais voyez, il y a quand même finalement deux partis qui ont accepté d'écrire quelque chose de très clair sur la pornographie. Donc on voit bien que le problème commence à prendre de l'importance quand même.
Nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, François Billot de Lochner. Donc, je rappelle, hein, le titre de cet ouvrage, Les Parfums du Château,
Oui.
paru chez Terra Marais. Il raconte l'histoire, alors plutôt positive, de personnes qui sont tombées dans la pornographie, qui s'en sortent.
Exactement.
Alors, non pas indemnes, mais qui en sortent.
Et qui en sortent. Et qui
Qui
en
en sortent.
sortent même bien. Enfin, oui, qui en sortent de belles façons, notamment grâce à une jeune fille d'exception. Voilà.
Nous nous arrêtons quelques instants juste après la pause. Nous parlons de Stop au porno. C'est la nouvelle association que vous avez créée cette année 2018.
Oui.
Et nous parlerons plus largement de cette façon que vous avez aujourd'hui d'éveiller les consciences, de parler aux parents, d'essayer de voir aussi comment on peut réparer, prévenir et réparer tous les dégâts liés à la pornographie. À tout de suite. Notre invité aujourd'hui est un père de famille. Je pourrais vous présenter comme ça,
Absolument.
François Billot de Lochner. J'aurais pu aussi vous dire que vous avez une carrière dans la finance.
Oui, nul n'est parfait.
Mais aujourd'hui, vous êtes de passage à Lourdes et vous nous parlez d'un fléau qui est celui de la pornographie.
Oui.
Parce que vous-même, vous avez été sensibilisé ces 10, 15, 20, 30 dernières années même à cette question et comment elle frappe, elle abîme à la fois les personnes et la société.
Oui.
On vous doit ce livre, Les Parfums du Château, paru chez Terra Marais. C'est un roman qui raconte une histoire, celle de la chute dans la pornographie et comment finalement on s'en sort et on réussit à, tant bien que mal, à sortir de ce guépier et de cet abîme que
Oui.
constitue la pornographie. Vous avez créé Stop au porno, c'est une association?
C'est une association, exactement. J'ai pensé qu'il fallait vraiment créer un outil spécifique pour que, parce que si vous voulez, je travaillais et nous travaillons notamment par la Fondation de services politiques sur le sujet depuis déjà une dizaine d'années
Fondation dont vous êtes le
dont je
président.
suis le président. Mais là, l'ampleur du sujet est telle qu'il nous a paru nécessaire de créer une structure particulière et offensive sur ce sujet, d'où Stop au porno.
Offensif sur le sujet, qu'est-ce que ça signifie? On peut aujourd'hui dans les médias en parler enfin, en tout cas en toute liberté comme vous le faites. On en parle de la pornographie, mais est-ce que votre parole passe?
Alors, dans les grands médias, c'est compliqué.
Ah oui.
Clairement. Ah, c'est très compliqué. Et à chaque fois que j'ai des contacts, c'est positif au départ. Et souvent, ça se termine en eau de boudin. Et ça, il n'y a pas de suite. Pourquoi? Parce que, d'une part, c'est vrai que j'ai un langage qui est tout à fait à l'inverse de ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la pornographie, c'est la liberté.
Oui.
Et donc, à partir du moment où on s'oppose à ce concept idéologique que la pornographie, c'est la liberté, on est immédiatement classé dans la catégorie des fascistes, des dictateurs,
Des réacs.
des réacs, éventuellement des cathos, parce que maintenant les cathos fachos, ça marche pratiquement ensemble. Enfin, on en arrive à des véritables délires, si vous voulez. Et donc, c'est très compliqué d'avoir des débats sereins, j'allais dire clairs et en vérité sur ce sujet-là.
Donc ça signifie, comme vous n'avez pas voix au chapitre dans les grands médias, ou enfin en tout cas que c'est compliqué, que vous trouvez d'autres moyens d'action.
Oui.
Alors vous publiez, vous faites des conférences.
Alors voilà, donc je publie et nous publions beaucoup pour essayer d'apporter notre pierre au sujet. Beaucoup de conférences. quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et ça, et pour moi, c'est très important. Il s'agit vraiment d'éveiller les consciences parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la France, globalement, est soumise à ce fléau pornographique. On n'ose pas en parler, on se cache derrière son petit doigt. Donc, ça me semble très important d'en parler très, très librement, mais sans jamais rentrer dans le glauque. Ça, je ne sais pas du tout faire. Je me refuse catégoriquement à rentrer dans le glauque, dans le descriptif, dans le voyeurisme. Ce n'est pas du tout mon truc. Et je m'aperçois qu'on peut parfaitement en parler sereinement avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Hein. Donc, mais c'est très bien. Au moins, on discute et on en parle. Donc ça me semble très important. Nous attaquons en justice assez gaillardement. Nous avons 4 procès en cours, dont le plus emblématique est un procès contre l'éducation nationale pour incitation à la débauche. Incitation des jeunes à la débauche, parce que l'éducation nationale a un rôle désastreux sur le sujet. Notamment les petits livres que l'éducation nationale publie sont des monstruosités. C'est insupportable. Un petit livre qu'on m'a mis entre les mains il y a un an à peu près ou un an et demi était tellement pornographique que quand j'ai commencé à le lire, j'ai arrêté au bout d'une page. Je n'ai pas pu continuer. Je me suis dit, je vais vomir. Ce sont des gamins de 10-12 ans qui lisent ça. Mais c'est un véritable choc psychologique, il y a de quoi les tuer psychologiquement. Et puis finalement, j'étais obligé, on m'a dit au bout de 3 mois, il faut quand même que vous alliez jusqu'au bout si vous les attaquez en justice. Donc je l'ai lu, mais c'est absolument effrayant. D'où cette attaque en justice. Blanquer nous a écrit récemment en nous disant « Oui, on pourrait peut-être quand même voir, je nomme le directeur général de l'enseignement chargé de ce sujet ». Tout ça, c'était pour freiner probablement le procès. Le procès, on a répondu très bien, nommez qui vous voulez, mais nous, on continue le procès. Et donc, le jugement, je crois, est attendu pour dans quelques mois. Je ne sais plus exactement quand. C'est souvent reporté, si vous voulez. Ces procès-là peuvent durer 3-4 ans. Mais donc, voilà, attaque en justice, c'est extrêmement important pour nous. On est en train de créer une cellule d'écoute pour ceux qui sont tombés dans la pornographie. On est en train de créer une école de parents par le net, avec un certain nombre de vidéos donnant les points clés. Parce que, tenez, par exemple, pour les parents, je vous donne un exemple. Il y a une erreur catastrophique faite par les parents aujourd'hui. Les parents n'osent pas tellement parler du sujet à leurs enfants. Et donc, ils se reportent sur des formateurs, des accompagnateurs, des sexologues qui vont intervenir dans des écoles ou dans des lycées. C'est catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'un sexologue, qui peut d'ailleurs être tout à fait autoproclamé et ne pas du tout être sexologue, mais ça c'est un autre débat, va arriver dans une classe. Il y a des enfants de 11 ans. Chacun sait, enfin n'importe quel psychologue de base, sait que dans une classe où il y a des enfants de 11 ans, certains ont une mentalité de 9 ans et d'autres de 13 ans. On va donner un même discours très offensif à une population extrêmement divergente. Et le plus grave, c'est que les petits bouquins qu'on donne à ces enfants, souvent sont des bouquins qui sont d'ailleurs affichés dès le départ comme allant de 6 ans à 14 ans. Ce qui est une monstruosité, enfin. Un enfant de 6 ans et un enfant de 14 ans, mais il y a un gouffre qui les sépare. Ne serait-ce que, par exemple, l'âge de latence, qui est très connu, qui va de 7 ans à 12 ans. De 7 ans à 12 ans, un enfant n'a pas besoin d'avoir des descriptifs très détaillés sur la sexualité. Ce n'est pas son truc. Lui, il est sur d'autres registres. Mais on force l'enfant de 10 ans à consulter, à s'occuper de ce genre de choses. Mais on lui met dans la tête, en réalité, un certain nombre d'images, de concepts, d'idées. On est en train de violer sa conscience, purement et simplement. Donc, il faut surtout stopper ce genre de choses. Ce sont les parents qui doivent s'en occuper. Et les parents doivent s'en occuper tout le temps. Ce n'est pas une discussion le 24 janvier. Non, c'est tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que l'amour, la beauté de la famille et la sexualité introduite par petites touches, mais pas comme touche unique, surtout pas. Alors que là, les parents sont complètement perdus. Donc, ils vont assez peu parler de choses qu'il faudrait évoquer, comme la beauté de l'amour, la famille, etc. Et ils vont tout d'un coup zoomer sur la sexualité, mais l'enfant va pas comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages, on en reçoit énormément, d'enfants qui se révoltent un peu, disant, mais moi ça m'intéresse pas ce que tu racontes, parce que ça vient trop brutalement.
Vous êtes en train d'écrire un état des lieux de la pornographie, qui paraîtra dans quelques mois.
Oui, en mars, je crois, oui.
Sans dévoiler ce que vous allez publier, est-ce que vous diriez qu'au stade où nous en sommes, on peut encore prévenir, ou nous en sommes plutôt dans le curatif, quoi. C'est-à-dire que l'atteinte est telle, l'extension du phénomène est telle que vous seriez encore plus inquiet, vous nous allez nous mettre encore plus inquiet qu'il ne faut sur le sujet.
Alors non, justement, et mon livre d'ailleurs sera à la fin plein d'espérance. Je pense que si l'on est libre, si l'on est vrai, si l'on enlève toutes ces œillères, si on arrête d'idéologiser tout ça, et si l'on est véritablement authentique, je crois qu'on peut parfaitement prévenir. C'est absolument certain, on peut prévenir parce qu'on va créer les fondements permettant aux enfants de ne pas tomber justement dans la pornographie. Le curatif est fondamental puisque effectivement, malheureusement, beaucoup de gens sont tombés dans la pornographie, beaucoup de jeunes notamment, mais aussi des gens de 90 ans, hein, parce qu'il n'y a pas du tout que les jeunes. Mais on peut véritablement empêcher très facilement de tomber dans la pornographie. En revanche, il faut par exemple réinstaurer absolument la morale, ce refus depuis quelques dizaines d'années de la morale parce que ce serait contre-productif est une pure aberration. Enfin, on a toujours vécu depuis l'origine de l'humanité sur des règles morales extrêmement claires. Il y a 4000 ans, il y avait des règles morales. Bon, elles ont évolué, bien sûr. Donc, aujourd'hui, dire la morale, il ne faut plus en parler alors que ça fait partie du patrimoine de l'individu et de la société, c'est une pure aberration. Parce que la sexualité déconnectée de la morale, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut dire à un enfant, attends, non, c'est quand même pas bien ce truc-là. Il n'y a pas de morale, mais la pornographie, c'est moche. Ben non, s'il n'y a pas de morale, la pornographie, c'est très bien. Je suis désolé.
J'ai entre les mains peut-être un des vecteurs les plus puissants, sans doute, de la pornographie. J'ai mon smartphone entre les mains. Tous les jeunes en ont un aujourd'hui, tout le monde. Enfin, je crois que le taux de possession de ce petit outil est phénoménal dans notre société. Il y a une forme de viralité autour de ce sujet de la pornographie. Comment faire? Comment les parents peuvent-ils faire pour résister à ce que vous, je crois, vous appelez un tsunami?
Alors, je vais vous citer un exemple qui a été donné par M. Clément, le directeur du très grand établissement catholique de Paris, Saint-Jean-de-Passy, qui est intervenu dans des assises contre la pornographie que nous avons fait il y a quelques semaines, et il a fait une intervention très remarquée et qui a enthousiasmé les gens. Il a dit, vous savez, il n'y a aucune obligation d'avoir un iPhone, et je vois que beaucoup de parents aujourd'hui, et ça c'est vraiment intéressant, transforment l'iPhone de leur enfant en un simple portable où il n'y a que du téléphone pour effectivement téléphoner à distance. Ça, c'était il y a 3 semaines. J'étais en Suisse pour une grande conférence il y a 8 ou 10 jours. D'ailleurs, la Suisse, honnêtement, est beaucoup plus décomplexée sur le sujet. C'est vraiment, j'avais une salle immense. J'ai pu parler vraiment de façon extrêmement claire de la morale. Il y avait 4000 personnes dans la salle. Bon, je veux réunir 400 personnes en France, 10 fois moins, c'est difficile. Il y avait 4000 personnes dans la salle. C'était une télévision suisse-allemande qui m'invitait. Et j'ai été très frappé parce que avant mon intervention, il y avait une conférence sur justement tous les outils de communication. Et la scientifique qui est intervenue a dit, spontanément, je ne la connaissais pas, donc on n'avait même pas parlé ensemble avant la conférence, et elle a dit à un moment, je constate qu'autour de moi et dans tous mes réseaux, de plus en plus de personnes rendent leur iPhone pour reprendre le vieux portable qui, lui, évite tous les risques d'esclavage que l'on peut imaginer. Voilà. Donc, vous voyez, donc je pense que l'iPhone n'est pas définitivement inscrit dans les gènes. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, prions le ciel pour ça.
Alors, bon, l'émission touche à sa fin.
Oui, je suis trop long dans mes réponses.
Non. Ce qu'on peut dire peut-être en terminant, c'est qu'il existe quelques outils qui sont mis à disposition, sans doute, de ceux qui nous écoutent. J'entends par là cellules d'écoute dont vous nous avez parlé. Vous prévoyez, je crois, de mettre en œuvre une école de parents par le web.
Exactement.
À travers des vidéos. Peut-être y a-t-il un site internet ou
Stop au porno.
Stop
absolument.
Au porno.
Et quand on tape stop au porno, il n'y a même pas besoin de faire des choses compliquées parce qu'on est déjà numéro 1.
Oui.
Donc
bien référencé.
Google, on est très bien référencé. Stop au porno. Et alors le site, évidemment, il faut l'améliorer tout le temps parce que le sujet évolue tout le temps. Et donc, c'est vrai que nous avons des gens compétents qui sont là-dessus. Absolument.
Merci François Billot de Lochner. Et puis, je rappelle le titre de cet ouvrage, Les parfums du château. Terra Marais.
C'est moi qui vous remercie, cher monsieur.
C'est le nom de l'éditeur. Un mot pour terminer sur Lourdes. Vous aimez passer à Lourdes? C'est un beau lieu pour vous.
J'ai une passion pour Lourdes. Et donc, c'est merveilleux pour moi d'être ici. C'est une grâce du ciel.
Merci. Au revoir.
Merci beaucoup.